Donc, quand est-ce que vous avez voulu exercer ces métiers de directrice artistique et de metteuse en scène?
Alors, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé par faire des études de théâtre en tant que comédienne. Donc, j'ai fait des écoles de théâtre à Paris pour me former en tant que comédienne. Et puis, dans le cadre d'une de ces écoles, qui est l'école Claude Mathieu, on avait l'opportunité de faire des mises en scène, de travailler sur des ateliers de mise en scène. Et j'ai essayé et ça m'a vraiment convaincue que j'étais beaucoup mieux à la mise en scène qu'au jeu. Voilà, donc ça fait un petit moment maintenant que j'ai pris cette décision de faire de la mise en scène, tout en continuant à me former en tant que comédienne régulièrement. Et puis je me remets un petit peu au jeu, puisque sur le spectacle Titanic et mon précédent spectacle, je suis sur scène. Et le prochain spectacle, je serai également sur scène.
D'accord, ok. Il me semble que vous avez créé une pièce.
Oui.
Et je voulais savoir, est-ce que c'est plus simple d'écrire quand on est metteur en scène que comédien?
Plus simple d'écrire? Alors en fait, quand j'ai écrit, j'étais vraiment à une place d'autrice, c'est-à-dire que j'étais pas à la place de metteuse en scène. Le texte que j'ai écrit, c'est de Tétanie, hein,
oui,
que vous parlez.
Tout à fait.
Donc quand j'ai écrit le texte de Tétanie, c'était quelque chose d'indispensable. Il fallait que j'écrive. Ça fait des années que j'avais envie d'écrire, et puis ça a été un concours de circonstances qui a fait que je me suis vraiment mise à écrire. Et en fait, j'étais pas du tout dans la posture de la metteuse en scène. J'étais vraiment dans la posture de l'autrice. Et ensuite, quand je l'ai mis en scène, je me suis mis à la place de la metteuse en scène. Et c'est assez rigolo de monter son propre texte, parce que quand on est metteur en scène, on va découvrir des choses dans le texte, on va creuser un petit peu. Et du coup, il y a des choses que la metteuse en scène a découvertes du texte, qui étaient assez, c'était assez intéressant avec l'équipe aussi, de travailler le texte avec une équipe de comédiens, avec quelqu'un qui fait de la musique aussi sur le spectacle. On découvre, on a des nouvelles découvertes sur le texte. Il y a des choses qu'on découvre qu'on n'avait pas forcément vues quand on l'écrit, puisque c'est quelque chose, une écriture, c'est quelque chose d'assez intuitif. Après, je l'ai beaucoup retravaillé, etc. Mais on a un endroit de quelque chose qui sort de soi. Et ensuite, il y a l'analyse de la metteuse en scène. C'est vraiment deux positions différentes.
Du coup, tout est arrivé à s'imbriquer tout à fait normalement, si je puis dire.
Oui, naturellement.
D'accord.
Ouais. Et justement, j'étais assez contente de lire le texte que j'avais écrit, parce que c'était un texte que j'avais envie de monter en tant que metteuse en scène. C'était un style qui me plaisait bien.
Vous êtes en résidence artistique, il me semble.
Oui, alors on a fini notre résidence vendredi.
D'accord.
Dernier. On a passé toute la semaine au Quai des Arts à Argentan, du 15 au 19 février.
Très bien. Est-ce que vous conseillez cette expérience à d'autres artistes?
Alors, quelle expérience?
De justement partir en résidence.
Ah ben, c'est indispensable en tant qu'artiste de continuer à travailler. Nous, on a fait le choix, effectivement, pendant cette période, de continuer à travailler sur notre spectacle, en se disant, c'est la seule chose pour l'instant qu'on peut vraiment faire, d'avancer sur nos projets de création artistique. Et du coup, de se dire qu'on sera prêt, en fait. C'est des temps de création qui étaient prévus pour un petit peu plus tard, hein. Normalement, on aurait dû répéter plus tard. Et là, on a eu l'opportunité de le faire maintenant. Et le spectacle est presque prêt. C'est-à-dire que dès qu'on va pouvoir aller à la rencontre du public, dès que les salles vont être ouvertes, on va pouvoir tout de suite jouer notre spectacle. Il n'y aura pas de temps de latence, il faudra reprendre quelques répétitions, mais assez peu. Et c'est vrai qu'on est dans un temps en ce moment qui rend la création assez propice. C'est un peu, même si on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer, ce qui est assez difficile pour nous, parce qu'on est dans un travail tout le temps dans la projection pour la création et le montrer au public, mais il y a quand même une ambiance particulière qui nous fait aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur le projet, sur le texte, affiner la direction d'acteur. Enfin, peut-être on prend un peu plus le temps qu'habituellement. Voilà, il y a un rapport au temps aujourd'hui qui est un peu différent, et effectivement, pour les artistes qui peuvent, il faut essayer de continuer à travailler. Après, il y a aussi la question des moyens, et là, là c'est vraiment un choix. Nous, on a décidé de maintenir ces résidences en sachant qu'on n'a pas forcément le budget, mais les artistes sont payés normalement, évidemment. Et puis, on verra après. Enfin, quelque part, on se dit là, le moment présent, c'est de continuer à avoir une activité, maintenir le cap, et puis on verra après, quoi.
Est-ce que cela permet de faire un travail sur soi-même et se dire qu'on n'est pas que tel type de métier et qu'on peut justement à peu près tout faire lors de ces résidences ?
Non, alors pour le coup, je serais plutôt dans la contradiction de ce que vous venez de dire. Cette résidence, notamment avec Auréliane Pazaglia, qui est créatrice lumière, David S., qui est musicien, et Samuel Desfontaines, le comédien, chacun est très talentueux dans son domaine, est très compétent et expérimenté. Et du coup, je sais que moi, je ne pourrais pas faire ce que fait avec beaucoup de talent. Et David, pareil, enfin, ouais, qui a beaucoup de finesse, que j'aime beaucoup, qui sait d'avoir au plateau, mais je suis incapable de le faire à leur place. Donc, je trouve qu'au contraire, c'est tant comme on prend le temps. Chacun a vraiment sa place pour vraiment sa partie qui est bien spécifique. La lumière pour Auréliane, la musique pour David, et le jeu évidemment pour Samuel, qui est quand même un élément très important pour ce spectacle.
Comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire ?
Alors en ce moment, quand on me demande comment ça va, j'ai pour habitude de répondre 50-50. C'est-à-dire, il y a des moments où ça va plutôt bien, puisque c'est une période où justement on a le temps de réfléchir, de monter des projets, de se retrouver, de mettre à plat un peu nos pratiques, de réfléchir à comment ça va pouvoir se remettre en place, comment on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est vraiment des côtés assez positifs. Et puis, on sent bien que c'est indispensable, notre travail d'artiste, etc. Et d'un autre côté, un peu de colère, un peu de sentiment d'injustice, de voir qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas présenter notre travail au public. Et que, voilà, il y a de l'injustice. Je sens une certaine injustice et un peu de colère, justement, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on peut aller. J'ai été à Paris, j'ai pris les transports en commun, je suis revenue à la gare Montparnasse, le début des vacances scolaires de la zone parisienne, et j'ai vu le monde sur le quai. Et c'est vrai que ça interroge vraiment quand, pour une présentation professionnelle, on s'inquiète parce qu'il y a 15 personnes. Et ça met dans un état vraiment bizarre, parce que on sait qu'on fait tout ce qu'il faut, nous. On essaye au maximum, par exemple, sur tous nos projets d'action culturelle, on n'a eu aucun problème, il n'y a eu aucun cas positif de Covid, parce qu'on met en place les gestes barrières. Enfin, il y a vraiment ce sentiment, et en même temps, on comprend très bien ce qu'il faut faire, on comprend qu'il y a des choses à faire pour éviter que ça soit la catastrophe, et on se sent un petit peu sacrifié quand même sur un domaine qui effectivement n'est pas forcément reconnu. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets d'action culturelle notamment qui sont arrêtés pour des personnes qui sont des personnes fragiles, qui sont, enfin pas fragiles, elles sont très fortes, mais qui sont bénéficiaires du RSA, habitants de quartiers prioritaires, des détenus. On a un projet en prison qui a été arrêté, des gens qui sont complètement isolés aujourd'hui dans leurs cellules, qui font plus rien. Le malaise des gens, la santé mentale des gens, avec la pratique artistique et avec l'action culturelle, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien, quoi. Donc on se tient prêt. On se tient prêt dès la réouverture. On a fait des réunions avec toute l'équipe, parce qu'on est plusieurs artistes dans l'équipe à faire des interventions d'action culturelle pour faire des projets avec les habitants. On est prêt. Dès qu'on va pouvoir, on va se remettre au travail pour permettre aux gens de sortir de cette période et de se réouvrir au monde et de recréer du lien et de nouveau avoir confiance en l'autre et dans la société, quoi. Donc on a du boulot.
Ouais. Pensez-vous que le masque soit un frein à la création ou pas, puisque j'ai vu des photos où certains comédiens jouent?
Alors, en fait, c'est une action culturelle qui a pu avoir lieu puisque c'était une action de formation. Mais effectivement, on a fait le choix de garder les masques parce que c'est des publics qui peuvent être fragiles au niveau de la santé. Et du coup, on voulait vraiment pas prendre de risques, même au plateau, puisqu'aujourd'hui, normalement, dans une salle de spectacle, les comédiens ne sont pas obligés de porter le masque sur le plateau. De la nuit juste avant les forêts, là, de la résidence qu'on a faite la semaine dernière, n'a pas de masque. Il joue sans masque. Donc, effectivement, un comédien professionnel jouer sans masque, avec un masque, c'est pas possible. Et même pour des comédiens qui sont pas professionnels, mais là, pour le coup, on voulait vraiment pas prendre de risque au sein du groupe.
D'accord. Maintenant, on va passer à des questions plus simples, plus légères. C'est ce que j'aime faire en interview avec toutes les personnes que j'ai avec moi. Quelles sont vos plus grandes inspirations ?
Les plus grandes aspirations artistiques, oulala, c'est de créer dans des bonnes conditions avec les gens que j'aime, avec les gens avec lesquels j'aime travailler. J'ai envie de continuer les expérimentations et de multiplier justement les expérimentations à différentes places, puisque aujourd'hui je peux travailler la dramaturgie, l'écriture, le jeu, la direction d'acteur, la mise en scène. Donc c'est continuer à rencontrer des gens aussi, à rencontrer d'autres artistes. Je suis aussi associée avec une autre metteuse en scène en région parisienne sur un autre projet. Voilà, avec le théâtre studio à Alfortville, on a une création qui va être écrite, qui va aussi me mettre en scène, où je vais être comédienne. Enfin, mes plus grandes aspirations, c'est justement de continuer mon métier à le faire avec dans des bonnes conditions et avec de la joie et du bonheur et avec des gens que j'aime. Quoi.
D'accord. Votre pièce de théâtre favorite ?
La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès.
D'accord. Votre souvenir le plus marquant dans votre vie en tant que comédienne ou metteuse en scène ?
Alors, en tant que metteuse en scène, je crois que c'était quand j'ai monté Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, qui est un sacré morceau, et qu'on a fait la première. On a accueilli c'est un de mes premiers spectacles et que j'ai accueilli du public, et c'était très fort de pouvoir montrer ce spectacle et de faire vivre cette aventure aux spectateurs.
Si vous pouviez jouer dans n'importe quelle salle, vous iriez où ?
Si je pouvais jouer dans n'importe quelle salle, je vous répondrais, ça dépend du spectacle. Pour la nuit juste avant les forêts, je dirais n'importe quelle salle me convient et voilà. Pour Tétanie, il faut une salle équipée avec du matériel lumière, du matériel son et une jauge pas trop grande. C'est un spectacle qui est pour 150-200 personnes. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt attachée à des lieux pas trop grands pour avoir un rapport au public assez direct. Donc, je dirais plutôt des salles. Des salles, le type le Québé au Quai des Arts, le Théâtre des Corps à Caen, des salles qui ne soient pas trop grandes. Quoi.
D'accord.
Je voulais un petit peu parler de La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès, si vous me permettez.
Bien sûr.
Qui est le spectacle qu'on a répété la semaine dernière. Donc, c'est un texte de Bernard-Marie Coltès qui a été écrit en 1977 et qui parle d'un personnage, c'est un seul en scène, un personnage qui est dans la rue, qui vraisemblablement est SDF et va attraper quelqu'un pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et tout ce qu'il pense de la société, du monde, du pouvoir, de l'amour, garder le lien avec cette personne qui l'arrête dans la rue et qui va passer d'un sujet à un autre, qui va emmener vraiment le spectateur dans sa déambulation spirituelle, mais aussi dans l'espace, c'est-à-dire que le comédien, il faut suivre le comédien qui va se déplacer à l'intérieur du théâtre, d'un espace à un autre, et jusqu'à arriver dans l'esprit de ce personnage un petit peu torturé. Donc c'est un voyage spirituel et aussi physique On invite les spectateurs à faire ce voyage avec nous et on espère vraiment pouvoir le jouer dès que c'est possible.